Merci. Je voudrais déjà remercier les organisateurs de cette journée d'avoir pensé à inviter un diabétologue libéral pour parler d'éducation thérapeutique. Je suis ici en tant que représentant de la FENAREDIAM, dont je suis actuellement vice-président en charge en particulier de l'éducation thérapeutique. La FENAREDIAM, c'est la Fédération nationale des associations régionales d'endocrinologues, diabétologues, libéraux. Merci. Alors, un diabétologue libéral, c'est déjà un diabétologue. Bon, je ne vous rappellerai pas que le diabète est une maladie chronique, ce qui veut dire que la relation avec le patient est forcément destinée à s'inscrire dans la durée et que donc la nécessité d'éduquer le patient s'est depuis longtemps imposée pour qu'il devienne bien sûr actif dans le traitement de sa maladie et pour qu'autant que possible, il acquiert une autonomie par rapport au traitement de sa maladie et à sa maladie elle-même. Et à cet égard, on peut dire que le diabète, c'est le prototype même de la maladie qui a fait émerger le concept d'éducation thérapeutique. Le diabétologue libéral, c'est aussi un médecin libéral. Et un médecin libéral, c'est quelqu'un qui a une relation privilégiée avec son patient. C'est ce qu'on appelle aussi, ce qu'on appelait il y a quelques années, le colloque singulier. Une activité qui est centrée, bien sûr, sur des soins individuels, mais ça ne veut pas dire qu'on reste tout seul dans son cabinet, isolé. Ça, c'est peut-être un peu l'image, à mon avis, dépassée qu'ont certains du médecin libéral. Le médecin libéral, c'est quelqu'un qui collabore avec les équipes hospitalières et qui collabore aussi avec les autres professionnels de santé libéraux. La caractéristique, je dirais aussi, de la médecine libérale, c'est bien sûr le paiement à l'acte. Le diabétologue libéral, dans son exercice, doit apprendre au patient à comprendre sa maladie, à adapter son alimentation et son activité physique, à comprendre et à gérer son traitement, à maîtriser des gestes techniques, tout cela en tenant compte de ses connaissances et de ses capacités à acquérir des connaissances, de ses représentations de la maladie, de sa personnalité, de son mode de vie, de ses projets, motivations et désirs personnels, et puis aussi en tenant compte, bien sûr, d'une notion fondamentale qui est celle de la qualité de vie. Le diabétologue libéral, devant cet exercice, a acquis empiriquement, je dirais, un savoir-faire, une expérience, et je peux dire après, une compétence par rapport à cette notion émergente d'éducation thérapeutique. Le diabétologue libéral fait souvent des consultations mixtes de par la nature de son exercice, qui sont des consultations, je dirais, qui associent à la fois soins et éducation thérapeutique, mais faut-il le rappeler, l'éducation thérapeutique est indissociable des pratiques de soins. Ça n'empêche pas le diabétologue de devoir organiser, formaliser un certain nombre d'actes pour avoir une meilleure efficience et aussi une meilleure collaboration avec les autres professionnels. Et ainsi, on peut dire qu'il existe des réseaux virtuels, même si aujourd'hui la notion de réseau est une notion qui est particulièrement, je dirais, à la mode et donc encadrée. On n'a pas attendu qu'on nous ponde des décrets sur les réseaux pour créer, je dirais, de façon virtuelle des réseaux. Nous avons tous des correspondants avec d'autres professionnels de santé, avec des professionnels qui sont à l'hôpital, mais avec des professionnels libéraux, que ce soit les médecins traitants, que ce soit d'autres collègues spécialistes, que ce soit les infirmiers, que ce soit les diététiciennes. Et donc ces réseaux, ils existent depuis déjà très longtemps. Pour s'aider dans cette mission d'éducation thérapeutique, le diabétologue libéral peut créer et utiliser des outils. Donc ça peut être un dossier personnel d'éducation ou des fiches à intégrer au dossier patient ou à remettre au patient. Ça peut être un dossier partagé avec d'autres professionnels. Il peut utiliser des documents pédagogiques visuels, des affiches, des fiches, des livrets, des classeurs. Il utilise aussi des documents qu'il remet au patient, comme des schémas d'aide à la décision, je pense en particulier pour la variation des doses d'insuline, des carnets, des fiches de traitement, un guide alimentaire personnalisé, des guides techniques pour l'utilisation de certains matériels. Et enfin, il utilise aussi des documents d'évaluation. Donc, le diabétologue libéral, il a une activité où il intègre parfaitement, je dirais, ce qui fait l'éducation thérapeutique. Bien sûr, cette éducation est avant tout individuelle. Mais est-ce que cette éducation individuelle est moins pertinente que l'éducation collective ? Évidemment, moi je vous dirais que je pense qu'elle n'est pas moins pertinente et je pense qu'elle est complémentaire de l'éducation collective. En plus, cette éducation est personnalisée, elle est en prise directe avec le diagnostic éducatif. Et elle va permettre, puisque nous connaissons bien le patient, on va le revoir, un suivi éducatif et une éducation continue, qui sont des critères, je dirais, de qualité de l'éducation thérapeutique. Alors, qu'en est-il de l'éducation collective pour le diabétologue libéral? Elle est difficile à mettre en œuvre en raison essentiellement de l'absence d'honoraires conventionnels, puisque seul le paiement à l'acte individuel est reconnu par l'assurance maladie. Donc, il s'agit bien là du seul et unique frein aujourd'hui. Alors, pourquoi n'envisagerait-on pas une éducation collective en libéral? Le diabétologue libéral, il a suivi ou il suit des formations à l'éducation thérapeutique. Il en a compris la nécessité au fil de son exercice, car si je vous l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, il y a un savoir-faire qui s'acquiert de par l'expérience, empiriquement, mais on a bien eu conscience rapidement qu'il fallait avoir des formations, donc il faut acquérir des compétences pédagogiques, que l'on n'a pas forcément quand on fait ses études de médecine. Il faut également faire des formations méthodologiques à l'éducation thérapeutique. Le diabétologue libéral, il acquiert aussi une culture d'amélioration de la qualité et bien sûr, il s'inscrit dans un schéma de formation continue. Dans cet état d'esprit, nous avons collaboré avec l'IPSEM sur un programme spécifique de formation pour le diabétologue libéral qui s'est organisé en 3 forums sur 5 jours et qui aboutit à la rédaction d'un mémoire qui peut prendre par exemple relater des exemples d'expérience ou d'un rapport d'expérience professionnelle. Cette formation Phénardiam IPSEM nous a aidé à organiser de façon pratique nos séances d'éducation. Alors, en reprenant bien sûr le diagnostic éducatif, comment faire un contrat d'éducation, comment planifier des séances d'éducation, comment, c'est très important, évaluer notre travail, et puis tout ça s'inscrivant bien sûr dans un suivi éducatif. On a eu des séances sur des méthodes pédagogiques, que ce soit des techniques collectives ou des techniques de guidance individuelle. Et nous avons à cette occasion créé des outils pédagogiques, un classeur imagier, une ardoise diététique. Je vous mets ici une photo du classeur imagier qui s'accompagne d'un petit livret qui reprend le classeur imagier que l'on peut remettre au patient. Donc, on voit que le diabétologue libéral, il a quand même une certaine expérience. Il a fait des formations. Ça lui donne donc une compétence qu'il voudrait bien voir reconnaître. Quelle est aujourd'hui la reconnaissance de l'éducation thérapeutique? L'assurance maladie aujourd'hui ne prend en charge que les actes d'éducation thérapeutique qui sont réalisés dans le cadre des réseaux ou, beaucoup plus exceptionnellement encore, hors réseau, dans le cadre d'accords locaux avec les caisses à titre expérimental. C'est donc finalement l'assurance maladie qui décide qui pourra bénéficier ou non d'une prise en charge via en particulier les cahiers des charges des réseaux. Bon, il faut admettre que c'est une première reconnaissance, mais que c'est quand même ça nous paraît tout à fait insuffisant. Et puis donc maintenant, l'éducation thérapeutique réalisée dans les établissements n'est même plus reconnue, puisque récemment est apparu, je ne sais plus si c'est un décret ou une circulaire, qui décrit les actes qui peuvent être réalisés en hôpital de jour, et l'éducation thérapeutique n'en fait pas partie. Donc on peut quand même être un peu inquiet sur l'avenir de la reconnaissance de l'éducation thérapeutique, que ce soit en hospitalier et bien sûr en libéral. Alors les réseaux, puisque c'est les réseaux qui ont toute l'attention aujourd'hui des pouvoirs publics, qu'est-ce qu'on constate? On constate quand même qu'il y a une grande diversité des réseaux, de par leur constitution, de par leurs objectifs, de par les acteurs qui sont impliqués dans ces réseaux. Aujourd'hui, il n'y a aucune certitude de pérennité de ces réseaux. On voit qu'ils restent souvent à l'état expérimental, que finalement, quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les réseaux, on constate qu'il y a une minorité de patients qui sont concernés pour des coûts qui sont quand même, il faut le reconnaître, élevés. Et que finalement, quand on regarde aussi les cahiers des charges, on n'a pas forcément beaucoup d'exigences sur la formation initiale, je dis bien initiale, des soignants à l'éducation thérapeutique. Certes, on leur demande d'acquérir une formation qui est souvent, je dirais, sur le terrain, à l'intérieur des réseaux, et qui n'est pas forcément labellisée de façon très claire. Et en tout cas, on peut se poser parfois quelques questions sur la qualité de cette formation. Alors, qu'en pensent les diabétologues libéraux de ces réseaux? Déjà, est-ce qu'ils participent au réseau? Pas toujours. Souvent, leur place est mal définie, incertaine. Elle est parfois totalement inexistante. On assiste dans ces réseaux à un transfert de compétences vers d'autres professionnels, sans qu'il y ait eu vraiment ni concertation, ni approbation, ni validation par les sociétés savantes et les instances représentatives. Alors on peut dire que pour le moment, c'est acceptable car c'est expérimental. mais il faudrait quand même bien que si on fait des transferts de compétences, on ait notre mot à dire. On constate dans ces réseaux que l'assurance qualité est insuffisamment prise en compte, que dans l'évaluation, il y a quand même un certain nombre d'objectivité souvent. On peut pas dire qu'un réseau fonctionne bien parce qu'on va prendre un diabétique avant son entrée puis après, parce que son taux d'hémoglobine A1C s'est amélioré. Si on prenait aussi le taux d'hémoglobine A1C des patients suivis par les diabétologues, je pense qu'on constaterait aussi qu'il s'améliore. Ça, c'est la dernière phrase, elle m'est plutôt personnelle. Je dirais qu'aujourd'hui, moi, je vis un peu les réseaux comme le cheval de Troie de l'assurance maladie. C'est-à-dire que l'assurance maladie, via les réseaux, nous impose un certain type de fonctionnement qui n'est pas toujours choisi, qui est souvent imposé. Et on se demande finalement quelle est encore notre place à ce niveau. Et c'est quand même un gros point d'interrogation aujourd'hui. Donc, les diabétologues libéraux revendiquent la place de l'éducation thérapeutique dans le cadre de l'exercice libéral de la diabétologie. Lorsqu'ils ont acquis la compétence, ils demandent une rémunération spécifique. Alors, sous quelle forme? Ça peut être sous la forme de cotation d'actes d'éducation, inscrit à la nomenclature, selon un descriptif et une typologie qui pourrait être validée par l'assurance maladie. Ça peut être un forfait pour un programme d'éducation thérapeutique défini et validé. Ça peut être en individuel ou en groupe. Je pense qu'on est ouvert à toute solution. On sait que l'assurance maladie a des soucis. D'abord, elle a des soucis pour définir quels sont les champs d'éducation thérapeutique, pour définir les actes d'éducation thérapeutique, pour savoir quels soignants sont impliqués, comment on va payer, combien ça va coûter. Eh bien, les diabétologues libéraux ont des réponses à ces soucis de l'assurance maladie. D'abord, les patients concernés, nous on dit, c'est les diabétiques qui sont pris en charge en consultation, qu'ils soient de type 1 ou de type 2. On dit que on est prêt à définir une typologie précise des actes en concertation avec l'assurance maladie, prenant par exemple un contenu contractuel, incluant l'évaluation bien sûr, on peut créer des consultations spécifiques. Les soignants impliqués, en l'occurrence, puisque je représente les diabétologues libéraux, c'est les médecins spécialistes qui peuvent prouver leurs compétences. On est prêt à prouver notre compétence, en particulier prêt à montrer qu'on a suivi des formations qui ont été validées. Et donc, on revendique un forfait à l'acte ou au forfait, en individuel ou en groupe. Quant au coût prévisible, là, je pense qu'il faut dire quand même de façon très claire qu'il faut avoir un certain courage politique pour mettre en place le remboursement des actes d'éducation thérapeutique. Il faut quand même bien comprendre que la prévention et son bénéfice est à moyen et à long terme qu'on va les voir, qu'il faut quand même aussi avoir une reconnaissance des professionnels qui s'impliquent et parfois qui s'impliquent depuis de nombreuses années, et que quand même, on peut penser qu'il sera moins onéreux de faire d'éducation, de reconnaître et de rémunérer l'éducation thérapeutique en libéral qu'au sein de réseaux, car ça permettra également de toucher plus de patients. En conclusion, les diabétologues libéraux de la FENERADIAM ont montré qu'ils connaissent l'éducation thérapeutique, qu'ils pratiquent l'éducation thérapeutique, qu'ils ont la volonté d'améliorer leurs pratiques dans un souci d'amélioration de la qualité, dans un souci de collaboration avec les autres professionnels. Les diabétologues libéraux demandent la reconnaissance de cette pratique de l'éducation thérapeutique, dès lors qu'ils sont à même de prouver leur reconnaissance, par une rémunération spécifique et pour valoriser l'éducation thérapeutique, que ce soit auprès des patients. Comment voulez-vous valoriser l'éducation thérapeutique si on fait des actes qui ne sont pas rémunérés? Et on disait tout à l'heure, les patients ne savent pas trop ce que c'est. Mais justement, comment voulez-vous qu'ils sachent ce que c'est, puisqu'on a des actes qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas clairement identifiés? Donc, je pense que la meilleure façon de faire reconnaître l'éducation thérapeutique auprès des patients, c'est aussi de la valoriser. Et puis, auprès des collègues, on a des collègues, effectivement, qui n'ont pas encore suivi de formation spécifique. Moi, je vous parle ici en tant que représentant de la FENERADIAM, on a mis en place des formations. Je sais qu'il y a des collègues à certains endroits qui n'ont peut-être pas suivi de formation à l'éducation thérapeutique. Eh bien, auprès de ces collègues, je pense que la meilleure façon de les motiver pour qu'ils fassent de l'éducation thérapeutique, c'est aussi de la valoriser et de la reconnaître et de la rémunérer. Et puis, c'est aussi une façon de promouvoir l'éducation thérapeutique auprès des autres professionnels de santé. On est prêt et on le fait déjà à s'impliquer dans des collaborations avec les autres professionnels de santé. Et les réseaux, ce n'est pas la peine qu'ils soient validés par l'assurance maladie pour qu'ils existent déjà. Voilà, c'était un peu les réflexions que je voulais vous faire sur notre vision des médecins libéraux sur l'éducation thérapeutique. Nous sommes aujourd'hui un peu amers, je dois vous le dire, un peu amers de voir que il y a beaucoup de discussions qui se font au sujet de la reconnaissance de l'éducation thérapeutique. On est en train de faire des, des référentiels au niveau de l'HAS et nous n'avons même pas été, je dirais, sollicités pour discuter au niveau de l'HAS. Donc on est quand même très amer. Et ici, je voudrais dire qu'on a encore envie de se battre. Je ne sais pas pour combien de temps, parce qu'on a l'impression qu'on a déjà tourné la page des diabétologues libéraux en se disant que l'épidémie de diabète va être tellement importante que de toute façon, ils ne pourront pas faire face, alors il faut qu'on organise les soins sans eux. Eh bien, je pense qu'on aurait tort de croire cela, car nous avons acquis une expérience, nous avons des compétences et nous sommes prêts, nous, à les mettre au service de la santé publique et au service des patients. Voilà, je vous remercie.